Cette émission vous est offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Nous sommes débordants justement d'énergie de quand nous vous retrouvons sur la 93.5 pour cette émission Club de la Presse. Merci de nous choisir. L'actualité est dominée ces derniers temps par la désignation du président du Conseil et l'élection du président de la République. Vous le savez bien, la prestation de serment des deux personnalités du régime parlementaire a été effectuée le samedi 3 mai dernier. Nous reviendrons sur le sujet dans cette émission Club de la Presse avec l'un des initiateurs de la nouvelle constitution, Innocent Kadbara, sénateur et président du PDP, Parti des démocrates panafricains. Monsieur le Président, bonjour.
Oui, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu, tout se passe très bien.
D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité de notre pays, du continent africain, aussi du monde entier, dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 8 mai 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Guetomega est à la mise en onde. Jérôme Dakoutia sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, vous pouvez aussi nous suivre sur nos médias ou nos canaux digitaux, et c'est-à-dire notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez également nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibine Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec des confrères journalistes et aussi des invités. Bien sûr, je vous l'annonçais, l'invité de ce matin, c'est bien Innocent Kadbara. Il est en studio avec nous, vous l'avez sans doute compris. Ambroise Kondo, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour l'invité, bonjour nos amis techniciens qui sont derrière la belle vitrée. Bonjour les auditeurs, auditrices qui nous suivent depuis Lomé et jusque dans l'intérieur du pays, même au-delà, au niveau de la diaspora. Je voudrais profiter pour attirer l'attention des autorités des travaux publics sur les voies qui se trouvent au niveau de Zosimé, Vakwasito, Zopomae. Il y a un monde fou là-bas. Je parle souvent de ma zone, Segbe, dont je plaide pour qu'on refasse cette route-là, qu'on élargisse un peu, parce qu'il y a tellement de monde. Mais je suis allé à Zosimé hier, c'est pour la première fois. C'est vrai, je passe souvent là-bas, mais rentrer même dans Zosimé, mais les gens là doivent souffrir quand il pleut, sérieusement. Bah, d'abord, avant de rejoindre le goudron, une des nationales, il doit faire 20 ou 25 minutes. Et j'imagine les rotules de tous ceux qui utilisent des véhicules dans ce quartier. Des nids d'autruches. Quand il pleut là, actuellement là, j'ai dû garer mon véhicule pour rejoindre mon cousin, pour aller au village hier. C'est-à-dire qu'il y a un monde fou là-bas. C'est-à-dire que Zosimé, Zopomae et Kore et comment on appelle Vakwasito, qui sont des grands quartiers qui sont contigus à Carrefour de l'Union et tout ça là. Je crois qu'il faut que l'autorité fasse une route, une route bitumée pour leur permettre de rejoindre les routes nationales. Est-ce que tu me suis?
Non, je te suis.
Et donc, je compatis sincèrement à ceux qui ont des véhicules là-bas. pour les motos, moi j'ai pris un média pour le jeune mon cousin, mais j'ai souffert même à Darwin là-bas. Imagine pour les véhicules. Tu ne peux jamais avoir un truc urgent et courir pour sur 40 mètres, kilomètres heure. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et donc, je plaide pour qu'il y ait une urgence, même ne serait-ce que pour le moment des latéraux de gravier là, quelque chose comme ça, en attendant qu'ils pensent à revêtir. Pas les bitumes, sincèrement.
D'accord. Monsieur Camara, ce que Ambroise évoque, c'est une réalité également de notre pays. Est-ce que vous êtes conscient également de cette réalité, monsieur le sénateur?
Oui, nous sommes très conscients de cette réalité. Et puis, c'est pertinent tout ce qui a été dit. Le gros problème que nous avons dans nos capitales africaines, surtout francophones, c'est le déficit des routes bitumées dans la capitale. Il y a une grande voie, deux grandes voies, mais les quartiers, il n'y a pas une politique
désenclavement.
Non, pas de désenclavement. Les routes sont quand même tracées. Mmh. Hein. Il y a
les routes adjacentes.
Oui, adjacentes. Voilà, voilà, voilà. Mais il doit avoir une stratégie quand même de rentrer dans les quartiers avec le bitume.
C'est ça.
Il faut rentrer dans les quartiers. Absolument. Sinon, nous, on appelait Lomé la Suisse africaine. Pourquoi? Parce que c'était une petite capitale. Mais en son temps, il y avait quand même assez de bitume dans la petite capitale là. Donc ça faisait une petite Suisse. Mais la ville s'est agrandie. Ce qu'il est en train de décrire là, il y a encore des quartiers derrière. Il y a encore des quartiers derrière. Je suis parti aussi rendre visite à quelqu'un pour avoir assez, même avec le GPS. Le GPS te lance loin, tu reviens. Parce qu'en réalité, quand vous allez là-bas aussi, le GPS fait aussi des grimaces. Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et pour revenir sur votre... pour retrouver votre chemin, c'est très compliqué. Et quand il n'y a plus... Donc, on a du boulot. C'est pour dire que en termes de gouvernance, on a vraiment du boulot. On a des projets à mettre en place pour pouvoir soulager nos populations. Et c'est ça, nous, notre leitmotiv.
D'accord. On a du boulot, vous l'avez
dit. Mais je vais corriger quelque chose. L'acronyme, notre parti, c'est le Parti démocratique panafricain. Ce n'est pas le Parti des démocrates.
Ah, justement.
Voilà.
D'accord.
Parti démocratique panafricain.
Mais merci beaucoup. Alors, c'est vrai que vous êtes jeune sénateur. Si j'ose alors le dire ainsi, parce que on connaît la composition hein, du Sénat, il y a pratiquement beaucoup de personnes quand même qui sont du troisième âge, mais en vous voyant, vous êtes jeune. Comment on se sent quand on est jeune sénateur?
Mais on n'est pas le plus jeune, hein. Faut pas laisser croire que je suis le plus jeune. Jeune sénateur, bon, pour nous, c'est un sacerdoce, et puis il faut servir avec responsabilité, patriotisme et humilité. Et humilité. Nous sommes là pour recueillir les problèmes, un peu comme ce qui a été dit ce matin en matière d'urbanisation, en matière d'assainissement. Et nous sommes là pour représenter le peuple à la chambre haute de notre configuration au niveau législatif. Et nous sommes là également pour relayer un peu tout ce qui se passe au niveau de nos territoires, au niveau des régions et au niveau des communes. Donc c'est pour ça que le Sénat a été mis en place. Et notre rôle fondamentalement, c'est quoi? C'est de légiférer, voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Et dans le contrôle de l'action gouvernementale, c'est ça là où les gens nous attendent. C'est relayer le maximum d'informations que nous avons sur le terrain pour qu'on puisse appliquer des politiques publiques qui puissent aller dans le sens du bien-être de la population. Donc c'est ça qui est fondamental pour nous. Donc être dans la peau d'un jeune sénateur, c'est un devoir. C'est un sacerdoce.
D'accord, c'est un sacerdoce. Mais monsieur le sénateur, c'est vrai que beaucoup de journaux sont revenus hein, sur ce qui a attiré l'attention de tout le monde le samedi dernier, c'est-à-dire le samedi 3 mai. Beaucoup de journaux sont revenus sur la désignation du président du Conseil et aussi le président de la République, l'élection bien sûr du président de la République. Vous avez participé même à cette élection, nous en parlerons dans un instant, mais je voudrais juste alors vous livrer les grands titres alors des journaux parus aujourd'hui sur le sujet. Il y a le journal Ouara les vainqueurs hein, qui titre bien sûr sur le sujet Faure Gnassingbé officialisé pour un tournant politique. Autre journal, c'est le journal Le Dialogue. Le Dialogue qui écrit 5e République, le renouveau institutionnel. Autre journal également qui s'intéresse au sujet, c'est bien Canal D. Canal D qui écrit « Togo, 5e République après l'euphorie, les grandes questions ». 3 points de suspension, bien sûr. Et également le journal Nouvelle Tribune, la Nouvelle Tribune écrit « Togo politique, 5e République, Fonia Simbe devient président du Conseil ». Qui est Jean-Lucien Savy de Tovey, président de la République? C'est une question que le journal se pose, bien sûr. Alors, monsieur le président, on prend un tout petit peu le processus, même d'ailleurs, de la journée du samedi. D'abord, premièrement, prenons la désignation du président du Conseil. Comment vous avez vécu l'événement?
Normalement, naturellement, parce que c'est des prescriptions constitutionnelles que nous avons respectées. Nous sommes à la Chambre haute, donc c'était au niveau de la Chambre basse de faire la désignation, le groupe parlementaire majoritaire. Et dans ce cas de figure, c'est le groupe parlementaire UNIR. Et il y a eu une session, une plénière très tôt le matin pour que le président de l'Assemblée nationale informe les parlementaires, puisque c'est une procédure d'information. Donc informe les parlementaires que le groupe parlementaire a désigné le nom de celui qui doit occuper cette fonction, qui est une fonction quand même essentielle et importante, qui est le chef de l'exécutif dans le régime parlementaire. Et je crois que les députés ont accueilli favorablement cette désignation. Et le président du Conseil a après prêté serment devant les membres de la Cour constitutionnelle. Et après, il a été renvoyé dans l'exercice de sa fonction. Donc, nous avons vécu toutes ces activités de ce samedi avec, comme je l'ai dit, patriotisme, beaucoup de recul, beaucoup d'humilité et le sens du devoir.
Mais c'est sans surprise quand ça a été une désignation du président de la République et que c'est M. Fornia Simbe.
De l'ancien président de la République.
Enfin, de l'ancien président de la République. Oui, oui. Du président du Conseil, justement.
Oui, ancien président de la République, nouveau président du Conseil.
Voilà. Ça n'a pas été une surprise pour vous?
Non, pas forcément, parce que nous, bon, ça c'est un rôle qui est... dans la Constitution, c'est le groupe parlementaire majoritaire. Nous savons très bien que le groupe parlementaire majoritaire, à l'issue des élections de avril 2024, c'est UNIR. Donc, et qui est le chef du groupe, qui est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale? C'est M. Fornia Simbe. Donc, c'est naturellement qu'il a été désigné.
Donc c'est naturellement qu'il a été désigné, c'est sans surprise bien sûr. Alors il y a un constat qui a été fait justement lors de cette prestation de serment. Nous avons vu le président de la Cour constitutionnelle qui a à un moment donné, qui a fait même le bilan des 20 ans du président de la République avec ses grandes réalisations, et l'ancien président de la République bien sûr, et avec ses grandes réalisations. Mais est-ce que vraiment c'était le rôle alors du président de la Cour constitutionnelle?
Non, je ne vais pas commenter ce que le président de la Cour constitutionnelle a fait. C'est un juge constitutionnel, il connaît bien son travail. Tout ce que moi je retiens de cette séance, le président du Conseil, le nouveau président du Conseil, que moi j'appelle le chancelier togolais, a prêté serment, il a été renvoyé à l'exercice de sa fonction. C'est tout, je ne ferai pas d'autres commentaires.
D'accord. Ambroise, vous, comment vous avez vécu cet événement?
Bon, peut-être dans l'indifférence, en toute franchise, parce que moi j'étais très occupé ailleurs.
Et quand ça ne vous intéressait pas?
Bon, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas ça, c'est pas ce que le Togolais veut en fait, la majorité togolais veut. Tout simplement parce que il y avait des précédents qui ne devaient pas aboutir à ce cinéma, et jusqu'à ce que un président de la Cour constitutionnelle puisse jouer au griot, il a pratiquement joué au griot, hein. C'est pas son rôle. Moi, c'est mon professeur, hein. Il m'a enseigné le droit constitutionnel en 1999-2000, à l'amphi, 20 ans, en première année. Avant, nous, on a quitté, et je ne retrouve pas le professeur Koulibaly. Je l'ai suivi à la télé à 20h. On ne lui demande pas, on ne demande pas à M. Koulibaly de faire l'éloge de faire le bilan des 20 ans de Fong Yassine. Non. Il est un juge constitutionnel, du surcroît le président de la Cour constitutionnelle, une institution qui se veut neutre et impartiale. Si c'était le cas, il a joué au glottisme la dernière fois. Il ne fallait même pas aller sur ce terrain-là. Laisse le président du conseil dont on parle prêter son serment et partir. Quand il s'agit des éloges, les voix les plus orientées, les plus accréditées le feront. Dans le parti uni ou dans les sympathisants de uni. Mais lui, vous avez vu le sénateur, il a dit, il est sûrement intelligent. Parce que il ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que c'est un jeu. Il ne trouve pas, je ne vais pas interpréter ce qu'il a dit, mais il ne trouve pas l'opportunité de juge constitutionnel qui est garant de la Constitution. En fait, prendre le camp d'un parti politique, puisque lui représente un parti politique, ça n'a pas été, ce n'est pas bien. S'il nous écoute, qu'il évite de faire ça. Abdou Assouman, père à son âme, l'avait fait. Il avait fait pire que ça. Hein. Il a même envoyé des pics à des gens qui sont aussi aujourd'hui décédés. Mais du haut de sa carrure universitaire, constitutionnaliste, non, il a joué un mauvais rôle la dernière fois. Et donc, revenons même au cirque qui s'est produit là.
Donc vous parlez du cirque?
Oui, je parle du cirque parce que aucun peuple togolais n'a demandé ça. Et il y a un enfant qui a demandé à son papa. Et ils connaissent, nos enfants connaissent tout ce qui se passe. Hein. Seulement, ils ne maîtrisent pas rien, ils n'ont rien à voir avec la politique. Il a vu le football d'Assimbé. Il dit, est-ce qu'on a fait les élections? Le papa lui a dit, non. Maintenant, il perd ses mains. Pourquoi? Les enfants sont très intelligents. Et le papa lui dit, il a changé de casquette. Donc, on va encore l'appeler président. Il dit, non, il y a un autre président. Oh. Et pourquoi il y a l'armée devant? L'enfant curieux, un enfant de 7 ans. Et donc, j'ai tout de suite compris que le problème n'est pas seulement au niveau des majeurs. Le problème se trouve au niveau des enfants aussi, qui se posent la question. Mais lui, il est là, ça fait 20 ans. Et il continue encore. Mais celui qu'on a vu président, bon, lui, il est qui? Il va jouer quel rôle? C'est la question qui est en l'air maintenant, qui circule en l'air.
D'accord. Merci, Ambrose. Et le Matisse Obé, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va. On rend grâce.
Voilà, nous sommes en train de revivre un tout petit peu la journée du 3. Et nous avons commencé par la désignation du président du conseil, la personne de Fong Yassine. Et au-delà de cela, il y a eu la prestation de serment aussi. Vous l'avez suivi. Comment vous avez vécu cela?
Oh, bon, comme tout Togolais, c'est vrai que c'est une journée à laquelle on s'attendait tous, parce que tôt ou tard, ça allait arriver. On savait que ça allait arriver avant le 6 mai ou soit le 6 mai. De toutes les façons, on avait déjà le nom du président du conseil, dans la personne du président Fong Yassine. C'était déjà, selon la constitution, tout était... Enfin, ça, c'est, tout le monde savait exactement que ça sera lui.
Ça, ce n'est qu'un protocole par après?
Non, mais selon la Constitution, c'est bien écrit que voilà, le président du Conseil est issu de la est le président de la majorité parlementaire. Donc, quand vous prenez la majorité parlementaire, on connaît le président du parti de la majorité parlementaire. Et donc, l'Assemblée nationale n'avait la majorité parlementaire n'avait qu'à saisir l'Assemblée nationale, qui doit saisir la Cour constitutionnelle pour validation avant de pouvoir voilà publiquement le désigner. Donc, c'est pour ça qu'on parle de président du Conseil désigné. Alors maintenant, on a c'est la surprise. Je ne sais pas si c'est une belle surprise ou pas. La surprise, c'est plutôt l'élection du président de la République, parce que jusqu'à présent, ça continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les gens s'attendaient très peu à ce que Monsieur Jean-Lucien Savi de Tove soit élu président de la République. Il y avait beaucoup de supputations parce que voilà, c'était un poste, même si entre guillemets c'est honorifique, avec justement un président de la République qui ne doit que décorer des personnalités, recevoir le président du Conseil deux fois dans l'année par rapport à l'état de la nation, avec l'obligation faite par la Constitution pour que l'une de ces séances soit quand même assistée par les chefs traditionnels. Voilà, recevoir des lettres d'écrivance des ambassadeurs, les accréditer sur proposition du président du Conseil. Et symbole de l'unité nationale, je pense que c'est l'aspect le plus fort, entre guillemets, de ce poste-là, symbole de l'unité nationale. Et je crois que c'est ce qui a joué dans la balance en ce qui concerne cette élection-là. Déjà, il était le seul candidat à ce poste. On a tous constaté qu'il était le seul candidat. Donc, symbole de l'unité nationale. Et quand vous prenez un peu de recul par rapport à tout le parcours du président de la République depuis voilà les années de l'indépendance, entre 63 et 67, ensuite entre 79 et 90, ensuite entre 90 et 2004. Donc, quand vous prenez ces trois temps forts du parcours de l'homme, vous vous dites que son élection ou sa candidature n'est pas fortuite. C'est une candidature vraiment qui est venue de quelque part. Parce que, voilà, on a voulu que ce poste, entre guillemets, honorifique, revienne à quelqu'un qui entre guillemets, vient de l'opposition. Parce que quand je parle d'opposition, quand vous prenez ces trois temps forts, vous constatez qu'il y avait une opposition qui était là dans les années d'après-indépendance, et ensuite une opposition entre-temps modérée, ensuite une opposition qui a travaillé justement main dans la main avec le gouvernement, le pouvoir, pour faire aboutir un certain nombre de choses. Donc c'est vrai que c'est une surprise. Maintenant, le vin tiré. On va voir comment les deux personnalités vont travailler ensemble. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de rétablir les fondamentaux de la République. On a beaucoup d'institutions dont il faut renouveler le mandat. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. On a des élections en cours, les élections municipales qui arrivent. On a une CENI qui doit être renouvelée. Donc on attend également, on ne sait pas si c'est la même CENI qui va au municipal ou on va renouveler cette CENI-là. On a plein de choses sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan du pouvoir d'achat du Togolais. On a quand même beaucoup de défis. Et donc, on attend justement l'action de ces deux personnalités du pays par rapport à tout cela.
D'accord. Monsieur Karbara, c'est vrai, et l'homme a bien fait quand même de faire la transition par rapport à l'élection du président de la République. Et vous faites partie même d'ailleurs de ceux qui ont voté pour le président de la République. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'élection de Monsieur Samy Doctorvilly?
Je crois que pour ceux qui l'ont désigné, je crois que c'est l'expérience. C'est quand vous voyez le parcours de l'homme, c'est quand même un homme. Ça a pris plusieurs phases. Il vient de le décrire. Ça a pris une phase de d'opposition, de défiance. Après, ça a fait une phase de modération. Après, ça a pris une autre phase. Et quand vous voyez le parcours de l'homme, en fait, à lui seul, il retrace un peu le parcours politique du Togo. Donc, il peut faire le ciment et puis il peut aider à apaiser et à entrer également dans un processus également de dialogue et puis de réellement de réconciliation. Et il fallait quand même un homme d'un certain âge qui a la culture politique pour permettre un certain équilibre au niveau des institutions. Il vient de le dire, c'est le symbole de l'unité nationale, c'est le garant de la stabilité et du vivre ensemble. Donc, c'est une fonction peut-être honorifique, comme le disent les uns les autres, mais utile, très utile.
Mais comment ce rôle sera joué? Et si, quand on prend la fonction même d'ailleurs, enfin, quand on parle de symbole de l'unité nationale, il va jouer ce rôle comment? Je ne sais pas si la Constitution l'a défini.
Non, mais pas clairement. Maintenant, vous savez, les régimes parlementaires d'un pays à un autre, ça diffère. Ça dépend aussi des personnalités, de la personnalité des hommes qui incarnent, qui sont à la tête de ces institutions. Ça dépend de leur tempérament, ça dépend de leur culture politique, comme je vous l'ai dit, et ça dépend de comment est-ce qu'ils veulent mettre en œuvre ce régime parlementaire. Mais moi, je crois que Monsieur le Président élu peut nous aider véritablement à rentrer, comme je vous l'ai dit, véritablement pacifier les cœurs, rentrer dans un processus de toujours permanent de discussion, de dialogue et puis de réconciliation, parce que nous avons besoin de fédérer les énergies des Togolais pour pouvoir construire le pays. Parce que, in fine, ce qui est important pour moi, c'est le développement. In fine, ce qui est important, peu importe le système qu'on met en place, on peut aujourd'hui critiquer le régime parlementaire, même si on avait amené un autre régime, parce que
Des fois, il faut se poser la question entre la démocratie, l'alternance et la gouvernance. Qu'est-ce qui vient avant l'autre? C'est ça le débat, en fait. Si nous posons la balle à terre, si nous débattons, même ceux qui vous disent qu'ils sont contre, ils n'ont rien d'autre à proposer. Et puis souvent, moi, je dis, et puis moi, c'est par idéologie. C'est réellement par idéologie. Suivez un peu mon parcours et suivez mes débats. C'est par idéologie. Même ça peut être un autre pays, je pourrais proposer la même chose. Parce que même les pays où il y a eu un régime présidentiel, il y a eu l'alternance, on a changé un système autocratique par un autre système autocratique. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, de la RDC. Ceux qui sont là, est-ce qu'ils veulent partir? Mais c'était jadis des opposants. Donc le problème, pour moi, le régime présidentiel, il me posait problème. Maintenant, essayons le régime parlementaire, voyons ce que ça donne, et puis faisons le bilan.
Peut-être là justement pour ce qui concerne les contestations, de quoi pense que on n'a pas forcément besoin de changer de régime avant d'aller vers le développement?
Non, pas forcément, mais ça dépend. Mais quand vous mettez votre temps à régler des problèmes politiques, un peu comme le cas de la Côte d'Ivoire actuellement, à quelques mois des élections, à 4-5 mois, c'est toujours comme ça, ça se passe dans tous les pays francophones d'Afrique. Après, on connaît les résultats. On connaît les résultats, il y aura la contestation. Vous allez passer une année à pacifier le pays. En ce temps, les investisseurs sont où? En réalité, c'est ça qui nous pose problème. Maintenant, si des gens ont autre chose, nous sommes prêts à les écouter, à débattre même avec eux. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Mais tout ce qu'on va vous dire, oh, non, on n'est pas d'accord parce qu'on ne devait pas faire ça. Mais qu'est-ce que vous proposez d'autre? Donc, en réalité, c'est ça. Maintenant, pour développer, comme je le dis, démocratie, alternance, gouvernance. Mais moi, le plus important pour moi, c'est la gouvernance. Parce que peu importe le système, si vous ne mettez pas des bases d'une gouvernance saine, avec des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, avec un plan de développement visionnaire, qui n'est pas un plan politique pour contenter une région pour gagner des élections, mais qui est un plan à moyen long terme. On se donne le temps et quand un ministre vient, il continue dans ce que l'autre avait. Donc, on a un problème, le gros du souci qu'on a, c'est un problème d'organisation dans les pays africains. C'est comment nous sommes organisés. C'est comment nous gérons. Et puis, on n'a pas assez de patriotes. Tout ce qu'on dit là, quand on laisse quelqu'un quelque part, il fait comme il veut. Les discours sont là, mais les actes ne suivent pas. Donc, en réalité aussi, on a un problème de paroles données et de patriotisme. Donc, c'est ça le plus important pour moi, au-delà de l'architecture que nous pouvons avoir. Donc, pour revenir à votre question, je crois que le président, le nouveau président, avec son expérience, et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'il vient de l'opposition modérée. Donc, nous, c'est avec beaucoup de joie que nous avons voté pour lui, parce que ça a été à la fois une surprise. Et puis, le parti majoritaire n'était pas obligé de proposer quelqu'un venant de l'opposition. Donc, il faut saluer quand même leur esprit d'ouverture. Il faut saluer leur esprit d'ouverture et il faut dire qu'au niveau de la 5e République, nous voulons véritablement qu'il y ait le dialogue permanent. Le dialogue ne doit pas, on ne doit pas rompre le dialogue. On ne doit pas attendre une crise pour dialoguer. On doit dialoguer sur des questions qui concernent l'ensemble de nos concitoyens parce que tout ce que nous voulons, c'est le bien-être de nos concitoyens.
Mais là, quand vous parlez de dialogue, est-ce que vous pensez déjà qu'il y a une disponibilité des cœurs ou il y a une volonté quand même pour faire ce dialogue dont vous parlez?
Nous sommes disposés. Je vous parle de moi. Nous sommes disposés à discuter avec tout le monde. Nous, pas principalement.
Mais ça ne dépendra que de vous seul.
Il n'y a pas d'étiquette. En politique, il n'y a pas d'étiquette. Il faut qu'on arrête de dire aux gens qu'en politique, il y a des gens qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Ça n'existe pas. Dans n'importe quel pays au monde. Trump, pour certains, il est bon. Pour d'autres, c'est le diable. Il n'y a pas un homme politique qui est bon et qui est mauvais. C'est une question d'abord de stratégie, d'alliance, de discours, de logique, d'objet. Parce qu'en réalité, c'est quoi la démocratie? C'est la dictature d'une partie sur une autre. Puisque si elle fait 50 plus 1, elle devient majeure. Mais en réalité, c'est la dictature de cette partie sur l'autre qui est minoritaire. Vous convenez avec moi?
D'accord, je comprends. Oui, en bref, comment vous appréhendez, vous analysez le choix de Jean-Lucien Savi, président de la République?
Oui, d'abord, je voudrais réagir par rapport à ce que le sénateur vient de dire sur le régime parlementaire. Le régime parlementaire d'essence est une bonne chose. Même le régime semi-présidentiel, on a vécu ça au temps de Joseph Kofigo. Sauf que ici, le régime parlementaire que nous faisons est différent de ce que les autres font. Eux-mêmes, ils l'ont dit qu'il adapte à nos réalités. Je ne sais pas quelle est cette réalité au Togo qui sort de la Terre qui va sur Mars. Et en plus de ça, le régime parlementaire n'a pas besoin d'un découpage électoral qu'on a actuellement. Ce découpage-là n'est pas cohérent avec le régime parlementaire. Si M. Kagbara retourne chez lui, dans son bureau, il n'a qu'à dire ce que je dis, et voir si ce découpage qu'on a fait répond réellement à ce régime parlementaire. Ça, c'est un. Maintenant, revenons à votre question. D'abord, M. Samuel Tovey, Jean-Lucien, que nous on appelle affectueusement Papa Vie, puisque c'est un oncle pratiquement à moi, et qui a été choisi président de la République. D'abord, j'étais...
Donc, ça veut dire que c'est la joie dans la famille.
Oui, il peut y avoir la joie, même dans tout le canton. Actuellement, il y a la joie. Je ne vais pas le cacher à qui que ce soit, parce que ne devient pas...
Mais heureusement.
Heureusement. Ne devient pas... Ça n'a rien à voir avec ceux qui parlent de 5e République. Nous, on parle... Ça dit, chez nous, il y a la nasse et il y a... Ce qui mène ici, c'est le chat. C'est ce qui est dans la... Et... Ça lui est tombé, ne devient pas président de la République, même si c'est une 40e République, c'est une 4e ou 5e République, ne devient pas de la République, président de la République Togo, qui veut. Et il a dit quelque chose d'important, on a parlé d'unité. Mais avant d'arriver à cela, Elon a bien fait de faire le parcours de l'homme. Son papa était président de l'Assemblée de 58 à 63, qui est un polyglotte, qui parle l'allemand, l'italien et le portugais comme sa propre langue levée. Je ne parle même pas le français. Il a fait la prison. Pratiquement, il a décidé en prison. Hein. Ça lui est tombé. Et l'autre, le papa. Et lui aussi, il a fait pratiquement une dizaine d'années en prison. Ça lui est tombé, celui-ci.
En 79.
C'est ce qui même l'a amené à la modération avec Edem Kodjo. Mm. Et il avait un parti lui-même, UDR, qui s'est...
Ils ont
qui
fusionné.
S'est mis, voilà. Ils ont fusionné avec Kodjo pour devenir CPP. Et bizarrement, entre lui et Kodjo, ils sont pratiquement du même acabit. Hein. C'est pourquoi des fois, ils ne s'entendent pas. Est-ce que vous me suivez?
Non, je vous suis.
Et donc, il y a la joie dans mon canton, pas parce qu'il a été choisi dans une république, dans quoi que ce soit. Tout simplement parce que c'est vrai que la Mijintobe est une cité historique. Ça, tout le monde le sait. Il y a une injustice qui est corrigée là-bas. C'est le premier point. Ça fait, vous êtes témoin. Chaque fois, je parle de Mijintobe, qu'on nous a retiré le chef-lieu, alors qu'on est peu 60 000, les autres sont à 12 000, 8 000, les autres cantons qui sont dans le jeu 2. Et c'est le canton le plus grand. Parmi les 16 cantons du jeu, c'est le troisième canton le plus grand. Bala, c'est Mijintobe. Après Sito, qui est très grand, c'est Mijintobe. Bedjetian, Konito, tout ça là, c'est Mijintobe. Je ne parle même pas de la vie de Mijintobe. Et vous voyez, on prend le maire, on prend encore là où on a pris le chef-lieu. Ça ne suffit pas. Le riz que nous célébrons en fin de fête traditionnelle.
Montlouzan.
C'est à Mijintobe. C'est là. Samuel Tovey était secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Quand les Taïwanais, Chinois étaient arrivés en 64. Et maintenant, patatras, on certifie encore le riz de Covier, le riz de Mijintobe, riz de Covier. Si tu as la place des gens de Mijintobe, tout simplement parce qu'il y a une autorité qui est à côté. Nous sommes, Covier et Mijintobe, je le dis clairement aujourd'hui, nous sommes des frères. Pour ceux-là qui ne maîtrisent pas l'histoire, moi j'ai un âge qui maîtrise un peu l'histoire. Quand tu viens à Mijintobe, tu vas sur le portail du chef canton de Mijintobe, qui est de 75 ans, on a écrit Palais Royal du chef canton de Mijintobe, Covier-P. Et l'homme l'a une fois vu. Covier, c'est le neveu de celui qui a fondé le canton de Mijintobe. Va rester. Chez nous, on dit en neveu, on dit, ben non, Covier m'a dit. Dans les 5 ans qu'on l'a va. Ce qui fait que le premier quartier de Covier, c'est Seva. Donc, tous les quartiers ont un nom qui parle, qui font l'histoire. Donc, aujourd'hui, mais les gens ont trouvé qu'il y a un équilibre. Que font Nassimbe pour une fois, au moins il a fait justice. Qu'il écoute ce qui se passe là-bas. Les gens ont dit on ne peut pas avoir président de l'Assemblée et président de la République dans un même milieu. Et ce n'est même pas évident dans la géopolitique. Mais pourquoi c'est arrivé? Je ne dis pas que c'est à cause de sa faute l'affaire. Mais ça a réglé un problème à Mijintobe. Et la fête est alors le dimanche là-bas. Je dépose ça. Et je reviens maintenant à la 5e République. Nous sommes invités là. Non, vous êtes invités.
Le sénateur aussi.
Le sénateur de la haute chambre. Pour la 5e République, nous disons non. Il faut qu'on soit clair.
Mais le président, il est président de quel?
Je viens de le dire, si c'est un deuxième. Si c'est un deuxième, ce n'est pas la République qui fonde la gouvernance de l'État. C'est l'esprit de la gouvernance qui fonde. Il faut que la personne ait une vision, comprenne le peuple, écoute le peuple qu'il gouverne. C'est ça la République dont on parle. Les chiffres, les nombres, ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que le peuple est cohérent avec la fameuse 5e République? Non. Si c'est ça, nous combattrons cette 5e République avec son régime parlementaire qui ne voudra que voir Fonds Nassimbé, là-bas, ad vita aeternam. Je viens de le dire. Quand la personne fait bien, il faut le dire. Fonds Nassimbé a réglé un problème d'injustice.
Donc vous êtes un centriste.
Non. Il a réglé un problème. Non, moi je suis journaliste, je reste objectif. Fonds Nassimbé a réglé un problème d'injustice. Ça, je le lui reconnais ça. Il n'a qu'à le faire à Kpanatao, à Sotoubwa et ailleurs. Parce qu'il y en a des populations aussi qui en souffrent de ces questions d'injustice. Il y en a des préfets qui créent des problèmes d'injustice. Bon, si Fonds Nassimbé prend ce chemin-là, il fera quelque chose, certainement. Mais il peut partir et revenir. Je l'ai dit, ça fait 5 ans, je l'ai dit ici. Mais la 5e République-là, la voie qu'elle a prise pour arriver n'est pas bonne. Et on combattra ça. Tout simplement parce qu'il y a un groupe de députés qui s'est revenu, notamment, Anati Koumelo en tête, qui ont pris. Moi, je dis les choses avec les noms des gens en même temps, parce que moi, je suis journaliste, il faut aller dans les faits.
Le sénateur était bon, il était en ce moment, il faisait
partie. Lui, là, on a eu plusieurs coups. Et donc, aujourd'hui, on comprend que. On comprend les opposants. Et la société civile qui combat et qui combattent et combattront cette 5e République parce que Fonds Nassimbé n'a qu'à revenir au dialogue. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Revenir au dialogue. Le dialogue dont il parle, c'est bien. Mais il faut un dialogue de fond. Un dialogue qui évoque les problèmes politiques du Togo. Parce qu'il y a une paix précaire.
Non, moi, on ne parle pas de la
vivons,
même chose.
Hein. Oui, nous vivons dans une paix précaire. Et cette paix-là ne nous donne pas de bons augures pour demain. Parce que quand vous étouffez une opposition, vous étouffez la société civile. Marcher, c'est un problème. C'est le peuple qui prend sa responsabilité en mode de façon spontanée.
D'accord. Ok, merci.
Avant qu'il ne prenne la parole, oui. On ne parle pas de la même chose hein, pour le dialogue. Moi, je suis un homme de paix, un homme de dialogue, et je dis je suis ouvert à toute discussion à n'importe quel moment. Donc, on n'a pas besoin d'une crise pour dialoguer. Et le Togo n'est pas en crise.
D'accord.
Donc, il faut corriger ça. Donc, ce n'est pas un dialogue comme on l'a vu dans le temps, mais nous devons, en tant qu'acteurs politiques, dialoguer tout le temps.
D'accord. Voilà. Oui, et alors, comment vous vivez ce tournant politique que nous sommes en train de connaître au Togo?
Oui, mais comme je l'ai dit tantôt, comme tout Togolais, vous savez, aujourd'hui, les Togolais sont très observateurs de cette 5e République. Les gens veulent voir comment ça va se passer. les gens sont là. Oui, non, c'est un problème réel. Tout le monde, parce que quand vous interrogez, vous écoutez un peu les gens dans les émissions et tout, y a des gens qui donnent leur avis de façon ouverte, mais il y a des gens qui sont un peu réservés parce qu'ils veulent voir avant de croire. C'est vrai, aujourd'hui on est dans la 5e République, mais la cohabitation des deux personnalités, comment ça va se passer? C'est vrai que la différence d'âge, elle est grande. Quoi qu'on dise, 86 ans pour le président de la République, c'est vrai que c'est pas à 86 ans qu'on mouille le maillot comme un jeune de 25 ans, c'est vrai, il faut le dire, mais de toutes les façons, on veut voir comment est-ce qu'il entend justement traduire ce symbole de l'unité nationale qu'il représente dans les faits. C'est très important ce que je dis, parce que la réconciliation nationale, on l'appelle de tous nos voeux. Monseigneur Bariga, paix à son âme, a fait de son mieux avec l'ensemble des membres de son bureau à l'époque. On a le rapport final de la CVJ qui est sur la table, mais on a des parties de ces recommandations qui ne sont toujours pas appliquées. Et donc, dans les parties de ces recommandations, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la chefferie traditionnelle qui est politisée, on l'a dit dans le rapport. Le HQK a commencé à réparer les victimes, les réparations financières comme non financières, etc. Mais il faut aller au-delà de ça maintenant. Je crois que, oui, à un moment donné, quand les gens de Mishintove sont contents parce qu'on a rétabli une injustice dans leur milieu, cela participe de la paix entre les deux communautés, les gens de Kobi et les gens de Mishintove. Il faut le reconnaître.
Et surtout de la cohésion sociale.
Oui, maintenant, il faut, comme je l'ai dit, il faut aller au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'injustice partout au Togo. Et comme je l'ai dit, le pouvoir d'achat du Togolais s'effrite. On a aujourd'hui quoi? On a un SMIC qui est là sur le tapis. On a le SMIC qui a combien?
C'est qu'en 2500.
Voilà, c'est qu'en 2500 officiellement. Mais les gens ne payent pas le SMIC dans leur job. C'est-à-dire que les gens ne gagnent pas ça. Vous comprenez? Les gens gagnent moins du SMIC. Alors que la loi dit le SMIC, c'est qu'en 2500. On a aujourd'hui une loi qui dit pour aller louer une chambre, vous payez 3 mois de loyer, 3 mois de caution, 6 mois. Personne ne respecte ça. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes réels dans le pays. Il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Mais on ne peut pas vivre comme ça dans une république. Et donc, si le président veut être le symbole de l'unité nationale, il faut qu'il commence à rétablir les fondamentaux de la République. On ne peut pas avoir des lois qui ne sont pas respectées. Et au-delà de tout, il faut que le prochain gouvernement soit un gouvernement d'action. C'est-à-dire que, et sur l'instruction du chef de l'État, sur ceci, on est fatigué d'écouter des discours comme... Franchement, à un moment donné, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Sur l'instruction du chef de l'État, sur ceci. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le prochain gouvernement va dépendre directement du président du Conseil. Et il faut avoir des postes de responsabilité, des gens qui vont s'asseoir pour actionner la machine. Il ne faut pas que des gens soient là pour dire, bon, si le chef ne dit rien, on ne fait rien. Mais on ne peut pas évoluer comme ça. Il faut qu'à un moment donné, ceux qui vont prendre la machine puissent aussi proposer, puissent être des hommes d'action. Parce que les problèmes sont là, tout le monde le sait. Toi et moi, le sénateur, Ambroise, tout le monde connaît les problèmes du Togo, moi à son petit niveau. C'est quoi? C'est les gens ne gagnent pas le SMIC, c'est alors que la loi dit c'est qu'en 2500. Les enfants, et puis, s'asseoir pour discuter aussi de plein de sujets, dont l'assurance maladie universelle. Les gens ne gagnent pas déjà le SMIC. On prélève encore les 5% de l'AMU dans leur salaire. Vous comprenez? Donc, il faut véritablement s'asseoir entre le secteur privé qui représente les employeurs et l'État et aussi les employés qui sont les travailleurs pour que l'AMU, qui est une bonne chose, que tout le monde s'asseye plutôt autour de la table de discussion pour discuter véritablement de ce qui est mieux. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les gens se sentent étouffés par rapport au pouvoir d'achat. Vous allez au marché, les prix ne font que flamber, et etc. Donc, à un moment donné, le Togolais se dit, mais on est dans la 5e République, mais on a les mêmes problèmes. Les choses n'ont pas changé. La loi qui dit on doit faire ceci, elle n'est pas respectée. La loi qui dit, voilà, l'État a pris telle mesure, ce n'est pas respecté. L'État a fait ceci, ce n'est pas respecté. Et puis aujourd'hui, il y a trop de sévices. Le Togolais n'est pas protégé. Vous voyez, le Togo, il n'est pas protégé du tout. Vous avez quelqu'un, il vit des choses dans son milieu, il peut même pas dire à quelqu'un parce qu'il a peur, parce qu'il ne sait pas d'où viendra le secours. Vous comprenez? Et donc, il y a beaucoup de choses. Je parle de l'unité nationale. Et donc, quand on parle de l'unité nationale, parce qu'on dit que le président de la République est appelé à devenir le symbole de l'unité nationale, il y a beaucoup. Ce n'est pas qu'on va venir au boulot à 11h, s'asseoir, repartir à 15h ou 17h. Non. C'est que, oui, il y a quand même des tâches. À réaliser. Et ça, on ne va pas attendre que voilà, le président. Mais quand on dit que je suis seulement de l'unité nationale, ça, on peut passer par le médiateur de la République, on peut passer par les institutions, mais il faut envoyer des messages aux deux. La Constitution même dit que le président de la République peut envoyer des messages aux chambres, aux deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. On peut faire des notes, parce que l'unité nationale passe par le règlement d'un certain nombre d'inégalités, d'injustices sociales.
Tout à fait.
C'est très important.
D'accord. Merci beaucoup, Elom. Oui, M. Kagbara. Est-ce que pour vous, la 5e République nous fera rêver? Quand je parle de nous, je parle des Togolais. Est-ce que cette 5e République fera rêver même les Togolais? Parce que, tel que Elom l'a souligné tout de suite, dans la pensée collective, on est là, beaucoup sont spectateurs ou observateurs même d'ailleurs de cette 5e République. On se pose la question de savoir, mais est-ce que cette 5e République va régler le problème de chômage, le problème de ci, le problème de ça?
Bon, moi, pour vous répondre, il faut dire que je suis un homme très optimiste. Je suis un homme qui croit en son pays, qui croit en l'Afrique, malgré nos difficultés, malgré nos divergences, parce qu'il y en aura toujours. Vous n'allez jamais trouver un moment de la vie politique d'une nation où tout le monde s'accorde. C'est impossible. Si le camp qui est au pouvoir, ça dépendra de la politique qu'ils mettent en place. Les autres vont toujours s'opposer. C'est toujours comme ça. Ma réflexion ira au-delà du Togo. Permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous dire que je crois en l'Afrique, je crois au Togo. Et cela doit passer si nous voulons nous développer. Nous avions le même niveau de développement que les pays d'Asie. Qu'est-ce qui a fait que les pays d'Asie sont développés en réalité? Ce n'est pas l'architecture politique. C'est le patriotisme et la bonne gouvernance. C'est le patriotisme et la bonne gouvernance et la vision d'un homme. Peu importe ce qu'on peut dire sur cet homme. Peut-être ces hommes-là qui ont développé, par exemple, l'Asie, ils sont décédés maintenant. Ils avaient des défauts. On a dit plein de choses sur lui. Mais ils ont mis les pays sur les rails. Mais en Afrique, on a eu un système. Il y a des facteurs endogènes qui peuvent l'expliquer. Il y a des facteurs exogènes aussi. Il y a ceux qui nous ont colonisés, ils ne nous ont pas permis de nous émanciper. Donc c'est pour ça, quoi qu'on dise, le discours des gens de l'AUS avec le leadership nouveau, par exemple, du président Ibrahim au Burkina et un certain nombre de leaders africains, c'est important de dénoncer. C'est important de dénoncer parce qu'il y a une pesanteur sur nous. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est l'architecture. L'architecture a mis en place des régimes trop forts. Trop forts. Ce qui fait que on ne dépend que du chef, on attend le chef. Donc, c'est qui nous a pas. Et nous avions des hommes forts jusqu'aux années 90.
Après, est-ce que ce n'est pas encore le cas dans ce régime parlementaire?
Non, je vais développer. La troisième chose, après l'architecture, en fonction des pays, le régime présidentiel peut marcher. Parce qu'il y a eu l'alternance d'autres pays. Donc, en réalité, il n'y a pas un mode d'emploi qu'on peut mettre sur un pays. Donc, ça dépendra des acteurs. Maintenant, en venant à la question essentiellement de la gouvernance, parce que tout ce dont on parle ici, c'est une question de gouvernance et de bonne volonté. Donc, à partir du moment où on met les gens qu'il faut à la place qu'il faut, ce n'est pas une question de diplôme ni de compétence.
Parce que tous ces gens-là, ils ont une présomption de compétence. Ils sont plus diplômés que tout le monde. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Mais est-ce qu'ils aiment le pays? Donc, c'est non seulement d'abord l'amour du pays. Deuxième chose, une vision claire des choses. C'est-à-dire que quand on nomme quelqu'un, on sait qu'il s'est arrêté ici. Le prédécesseur s'est arrêté ici. On prend ici, on continue. On ne reprend pas tout à zéro. Et troisième chose, c'est d'avoir une vision claire de ce que nous voulons faire. Quatrième chose, c'est lutter contre la corruption. Si on ne fait pas ça, cinquième chose, régler le problème des inégalités. Régler le problème des inégalités. Sixième chose, le problème de la justice. Le problème de la justice. Parce qu'il faut que la justice soit là et que vous vous sentez protégé. Parce qu'il y a des décisions que certains juges prennent. Je vous en prie, quand vous voyez la décision, ce n'est pas possible. Il y a des problèmes du foncier. Il y a des problèmes de l'emploi des jeunes. Donc, le prochain gouvernement a un gros challenge. Et dans le régime parlementaire, le Premier ministre, les ministres dépendent directement du président du Conseil. Donc, dorénavant, ce n'est pas une question de compétence. Mais c'est une question quand on choisit les ministres de patriotisme, d'amour de son pays, de sacerdoce. C'est beaucoup plus le ministre qui doit être à la disposition du pays. En réalité, c'est un employé du pays. C'est un employé du pays. À la fin de notre vie, si demain vous devenez ministre, ce qui est important pour vous, c'est avoir peut-être une maison ou deux. Ce que vous devez léguer à vos enfants, c'est l'éducation. Parce que si vous leur léguez la richesse, dans 20 ans, ils seront employés par ceux qui ont pu avoir l'éducation et qui se sont enrichis. Donc, vous voyez que c'est une révolution au niveau des mentalités. Donc, ce que je veux dire, ça n'a rien à voir forcément avec le Togo. C'est une révolution que nous devons faire dans l'ensemble de nos pays africains. Et les pays africains francophones, essentiellement. Si nous voulons, maintenant pour répondre à votre question, si nous voulons régler le problème du panier de la ménagère, mettons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ayant une vision claire de notre schéma de développement.
Mais est-ce que la 5e République nous permettra de...
C'est pas une question de République. Moi, je vous parle d'une question de gouvernance. La gouvernance n'a rien à voir...
C'est ce que je viens de dire.
La gouvernance n'a rien à voir avec... C'est pas parce que nous sommes dans la 5e République que demain matin, quand vous sortez ici, vous allez prendre un avion pour aller à Agouet.
Non, pas écrit, c'est comme vous.
Non, je sais pas, c'est ce que peut-être les Togolais pensent. Que, mais finalement,
non, objectivement, c'est nous qui avons fait la réforme et nous vous disons la vérité.
Et c'est pas la vérité.
Nous avons des défis à relever, nous allons les relever ensemble. Le gros souci que nous avons, c'est une question de gouvernance, c'est une question de patriotisme. C'est une question, et c'est l'ensemble, c'est nous tous. Ce n'est pas un camp contre un autre. Donc, si vous voulez me dire quels sont les challenges du nouveau gouvernement, je vais vous répondre. Si vous
posez la question. Justement, la question, j'en viens à cela. Et quels seront les grands défis alors de ce nouveau gouvernement?
Je pense que nous avons fait assez de réformes sur le plan économique et nous avons un bon climat des affaires. Mais maintenant, il faut susciter. Moi, vous savez, dorénavant, les élections législatives deviennent l'élection présidentielle. Dorénavant, quand nous allons aux élections législatives, on doit non seulement voter un parti politique, on doit voter des candidats dans leur région qui représentent ce parti et qui ont un impact dans leur région. On doit voter un programme de société et on doit voter un leader. Parce que le parti qui est majoritaire, son leader devient Premier ministre. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc on vote également un leader. Et nous devons proposer des choses en tenant compte de nos réalités et en aimant notre patrie. Donc les défis que nous avons, on l'a déjà cité, hein. C'est des défis de sécurité, c'est des défis de civisme, de citoyens. Les gens brûlent les feux rouges, on dirait que c'est facultatif. Ça commence par là. Non, le feu rouge n'est pas facultatif. Et vous qui vous arrêtez des fois, vous posez la question, est-ce qu'il faut avancer? Parce que même ceux qui sont derrière vous klaxonnent, alors que le feu est rouge, puisque tout le monde est en train de partir. C'est des petits trucs, mais c'est vraiment important. Le climat des affaires s'est beaucoup amélioré. Donc, il faut susciter la création des entreprises. Et je disais, moi, dans mon programme de société, les entreprises juniors, il faut mettre beaucoup d'argent, et ça doit être même de l'argent de l'État, à travers beaucoup de structures décentralisées. Ça doit être de l'argent de l'État, c'est nous qui devons créer les champions. La préférence nationale. La préférence nationale, c'est dans tout ce que nous portons comme habits, c'est dans la consommation, c'est dans tout ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas parler de préférence nationale alors que vous allez acheter vos costumes, vos chaussures, tout ça là à Paris, à New York. C'est ces gens-là que vous enrichissez. C'est les artisans d'ici. Vous devez vous habiller localement, enrichir les gens d'ici. Quand il y a des chantiers, si c'est du gré à gré, vous devez privilégier vos entreprises sur le plan national. S'ils n'ont pas de chantier, comment est-ce qu'ils vont faire pour grandir? S'ils n'ont pas de chantier, comment? Les dragons, c'est nous qui devons créer nos dragons.
Nous devons créer notre, absolument, la préférence nationale. On peut dire ce qu'on veut, qu'on a signé des accords. Il faut la préférence nationale. Il faut prendre des décisions. Il y a un certain nombre de dispositifs qu'on a mis en place depuis des années d'indépendance, tout ça. On doit casser tous ces dispositifs. Ça ne nous arrange pas. Comment nous pourrons nous développer en vendant nos matières premières sans les transformer? Le Ghana vient de prendre une décision. C'est une société nationale dorénavant qui rachète l'or artisanal. Et si vous voulez faire du business de l'or au Ghana, vous achetez à cette société nationale. Point barre. Point barre. Donc, un certain nombre... C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire la réforme de haut niveau de l'éducation. Parce que nous formons des diplômés, mais nous ne formons pas des gens qui réfléchissent et qui peuvent faire de l'économie. Nous formons des intellectuels qui savent bien parler. Mais nous devons aller au-delà de ça. Est-ce que tout le monde est appelé à aller à l'université? C'est une bonne question. Il faut faire la réforme de notre système éducatif. La santé, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Les infrastructures. Pour développer un pays, c'est les infrastructures. C'est les infrastructures. C'est la santé, c'est l'éducation, le reste suivra. Si vous n'avez pas cette base-là, c'est un peu difficile. Donc, je crois que tous les acteurs sont conscients. Mais maintenant, pour finir, c'est des hommes qu'il faut à la place qu'il faut.
D'accord, justement, c'est des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, en bref, pour vous, quels seront... Oui, il y a le sénateur qui a énuméré un certain nombre de défis hein, par rapport au prochain gouvernement. Vous, selon vous, hein, quels sont les défis quand même que doit relever le prochain gouvernement?
Bon, il a dit des choses intéressantes. Pour ne pas le cacher, il a parlé du patriotisme. Et quand on parle du patriotisme, au Togo, on en a, mais on en manque aussi. Si vous avez du patriotisme, vous n'allez jamais penser à vous-même d'abord. Vous allez penser d'abord à votre pays. Mais encore faudra-t-il que les élites, ceux qui dirigent le pays, pensent au pays d'abord. Quand vous ne pensez pas au pays d'abord, vous n'êtes pas dans le patriotisme. Ça, c'est un. Il a aussi touché l'aspect bonne gouvernance. Ça, c'est aussi un élément fondamental et qui doit être le pilier même du développement d'un pays. Quand vous n'avez pas les outils de la bonne gouvernance, vous faites du surplace et vous jouez au cirque. C'est-à-dire que vous vous occupez, ça rejoint toujours la question du patriotisme. Parce que quand vous êtes patriote, vous n'allez jamais détourner des fonds. Parce que la bonne gouvernance passe aussi par là. Vous n'allez jamais diriger une institution sans passer par la reddition des comptes. C'est ça. Et sur ce schéma-là, vous êtes dans la bonne gouvernance et vous êtes obligé de déclarer vos biens en tant que premier responsable du pays, en tant que tout collaborateur du premier responsable. C'est des éléments qui entrent dans la bonne gouvernance. Il y a d'autres éléments encore qui peuvent entrer. Et il a aussi parlé d'injustice. Et l'homme l'a soulevé et il a dit des choses intéressantes aussi. Il y a trop d'injustices dans ce pays. Il y en a tellement plein sur le plan économique, surtout sur le plan social. Je prends juste le cas de ceux qui prennent les impôts. L'impôt, c'est une obligation pour tous les citoyens. Vous payez l'impôt, vous donnez quelque chose pour que le pays soit construit. Mais quand on élargit tout l'impôt, l'assiette fiscale, ça détruit d'abord au niveau économique les entreprises. Et l'homme, lui, il est un peu plus économique que moi. Demandez-lui, c'est eux qui approchent les patrons. Le pays est tellement que quand tu ressens, tu as un ressentiment, tu ne peux pas le dire. Mais tu le dis en sourdine. Certainement, le sénateur peut en savoir quelque chose.
Samuel.
Tu as un ressentiment. Tu as la colère, mais tu ne peux pas le dire. Parce que tu as peur qu'on t'impose le quadruple de ce que tu peux pour te chasser même.
Est-ce que vous permettez qu'on fasse un débat interactif? C'est juste une petite question que je vais lui poser. Est-ce que vous êtes d'accord quand même que le climat des affaires s'est amélioré au Togo? Et c'est là à l'actif du président sortant.
En fait, le fait d'enregistrer 3000... Attendez.
Non, simplement.
Oui, je vais répondre. Le fait d'enregistrer, d'aller prendre le cas de CFE et d'enregistrer son entreprise, avoir un ordinateur, ça ne crée pas une entreprise. Ça, ce n'est pas le climat des affaires. Le climat des affaires, c'est créer des conditions optimales et propices pour les nationaux d'abord, d'avoir l'économie dans la main.
Mais vous savez que moi, je suis un patriote, un panafricain. Et moi, c'est la préférence nationale. Je viens de dire tout ça. Mais est-ce que vous savez que, quand même, quand on fait le classement du Togo par rapport à... Il y a eu beaucoup de réformes.
Ça, c'est des chiffres. Oui. Je suis d'accord qu'il y a eu des réformes.
Vous ne pouvez pas nier.
Qui n'impactent pas le quotidien des Togolais en termes de création d'emplois viables.
Non, ça,
quand je parle de viable, tu as fait qu'il crée un emploi, ça fait un an à peine, à peine 3 mois. Le TRR à cette rousse.
Non, la pression fiscale, vous savez, même quand vous prenez...
On ne peut pas dissocier ça
oui,
de la
mais quand
fiscale.
Vous prenez la norme au niveau de la sous-région, on n'est pas les plus disants. Hein.
C'est faux, hein. J'ai lu un truc, je vais chercher.
Non,
c'est faux.
Désolé.
Mais, c'est faux. Donnez-moi un projet faisait 350 milliards.
Donnez-moi un projet.
On est à 1200 milliards. Mais, comme il allait, la pédie est partie. Où est-ce que le Togolais tout cet argent-là? Demandez-moi. Et les gens crient partout, hein. Moi, je ne veux que je touche que l'aspect fiscal, l'aspect taxe et impôt. La mairie vient, le PR vient, des fois aussi, c'est d'autres bitosas aussi qui arrivent. Pour la même personne. Allez voir comment nos soeurs crient partout. Que ce soit au marché, que ce soit au niveau des activités génératives de revenus. Maintenant, on est en train de faire le changement, comme quoi.
Des entreprises, vous voulez dire.
Tout ça, là, c'est encore un cirque qui arrive. C'est toujours le PR qui va arriver. Mais si on le dit, les gens ne vont même pas accepter.
D'accord, merci.
Donc, pour dire que, à M. Kavala, que ce qu'il dit, il y a une réalité. Mais ça n'impacte pas le quotidien, ça n'impacte pas l'économie, la croissance, ça n'impacte pas. D'accord. Même les chiffres là, je me dis des fois qu'on nous ment quoi. Sur les chiffres quoi.
Non, sur les chiffres. D'accord, oui, sur les chiffres. Oui. Oui, vous savez, sur les chiffres, on ne peut pas mentir parce que c'est des institutions qui sont quand même crédibles sur le plan international. Notre note s'est améliorée, donc c'est à l'actif quand même du gouvernement, mais c'est vrai qu'il y a des défis. Je l'ai dit, je ne l'ai pas caché sur le plan sécurité, sur le plan de la justice, sur le plan de l'égalité des chances, sur le la corruption. Il y a un certain nombre de défis que nous devons relever et nous en sommes conscients.
Mais il y a aussi des améliorations, c'est de ça qu'il s'agit.
Voilà, donc il ne faut pas dire que c'est un cirque, tout ça là. Non, les mots sont un peu trop forts. Il faut dire que nous avons des challenges et ces challenges-là, c'est le prochain gouvernement
qui. Les gens n'ont pas la volonté d'y arriver, justement. Ce que tu dis est bien, mais ils n'ont pas la volonté d'y arriver. Peut-être toi tu peux le faire, mais eux, ils n'ont pas la volonté.
D'accord.
Ils n'ont pas la volonté. C'est un mot de campagne aussi pour le monsieur.
Vous savez,
il y a les autres débats. On a qui arrivent. Et quand tu vois, ils présentent ce programme.
Non, le débat est intéressant. Moi, je vais rebondir sur ce qu'Ambroise a dit par rapport au. Le débat est très intéressant parce que, vous savez, on parle de challenge, on parle de défi par rapport aux prochaines années, aux prochains mois. C'est très important.
Mais je vais parler d'abord des communes parce que on doit tirer le bilan de ce qui a été fait jusqu'à là, jusqu'à présent. On a vu que les maires qui ont été élus jusqu'à là, ou jusqu'à ce que, bon, jusqu'en juin, voilà, juin 2025, c'est ça, ils n'ont fait qu'apprendre. Vous comprenez? Cette expérience en matière de décentralisation n'a été qu'une expérience d'apprentissage. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des maires, au niveau des adjoints, au niveau des conseils municipaux, les conflits d'intérêts, les problèmes de décaissement. Les gens ne connaissent pas la procédure. Les gens ne savent pas où s'arrête le pouvoir du maire, où s'arrête le pouvoir de l'État. Il y a quand même beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'interprétation de la loi sur la décentralisation. Alors que, au niveau des communes, on doit quand même, au niveau, parce qu'on a compris que l'État a voulu que la gouvernance à la base soit décentralisée, enfin, soit quand même renforcée, qu'il y ait une décentralisation renforcée, mais on a constaté que les communes sont restées que l'ombre d'elles-mêmes. Quand vous rentrez dans les communes, vous avez l'impression que la commune se résume au maire qui fait des mariages, aux 16 adjoints qui célèbrent des mariages, qui délivrent des avis de tout ça, tout ce qu'il y a comme légalisation à faire. Mais les maires ne vont pas au-delà de ça. On a parlé, par exemple, du marketing territorial. Pendant les 5 années là, qu'on a parcouru, mais quelle mairie vous pensez qu'il a fait l'expérience du marketing territorial? Quelle mairie peut vous dire que oui, on a attiré tel investisseur dans notre commune et c'est grâce à tel investisseur que nous avons pu décrocher tel. Le problème de jumelage, par exemple. Et mais combien de communes ont fait du jumelage? Les communes même sont jusqu'à là. Il y a sur les 113 communes qui sont là, vous avez des communes qui n'ont même pas pu développer leur PDC, leur plan de développement communal. Il y en a sur les 113 en 5 ans. Ça veut dire qu'on est toujours en apprentissage. Et donc, si nous devons aussi parler des défis, on doit aussi rentrer dans les communes. Parce que le Grand Lomé, ça fait 13 communes. Regardez tous les défis qu'on a dans tous les quartiers au même moment. Je prends juste le côté assainissement. Gestion des déchets. Vous avez vu, au lieu de trouver des solutions, les gens sont venus avec des sociétés. Ils ont chassé tous les autres qui étaient là. On n'a même pas trouvé l'occasion de les faire asseoir pour leur dire, bon, ok, vous savez ce que vous allez faire, vous allez créer une société, on va reprendre la procédure, on a dégagé tous les autres, et les gens sont venus avec leur société. Mais c'est des problèmes réels, ça fait partie des inégalités des uns, et vous voulez que les gens ne soient pas frustrés? Les gens faisaient un travail, vous venez, mais vous les faites asseoir, vous discutez avec eux, vous leur trouvez des solutions concrètes. On veut que vous continuiez le travail, mais aujourd'hui on veut formaliser les choses. Essayez de faire ceci, de faire cela, pas forcément pour vous regrouper, parce qu'on sait que le Togolais, en matière de coalition, est difficile à manœuvrer. Vous ne pouvez pas dire, nous-mêmes, notre cadre, nous sommes ici, si vous me dites de faire une coalition, je ne vous garantis pas que demain, nos cadres, nous serons membres de la coalition. Il y a un ou deux qui vont partir. Donc, il faut que les gens puissent se responsabiliser. Mais vous les dégagez carrément et vous venez avec des sociétés. Après, vous dites qu'ils ont des camions, ils ont des bulldozers. Cette société a des quoi. Mais ils étaient où avant? C'est des sociétés qui n'existaient pas. C'est des gens qui ont été fabriqués à la dernière minute. Et donc, quand des choses se passent, je prends juste le côté gestion des déchets. Hein. Je ne suis pas dans les autres dossiers.
Oui, justement.
Je prends juste ça. Regardez tous les problèmes qu'on a à résoudre. On parle ici tout le temps. On dit oui, les ramasseurs d'ordures sont fâchés, ils sont ceci. Dans telle zone, tout le temps. Maintenant, allez à l'intérieur du pays. Vous avez des gens qui ont leur voiture qui se tapent des kilomètres pour venir faire une vidange à Lomé parce que le mécanicien qui doit réparer leur voiture à Lomé. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mais il y a des gens à des postes qui sont à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas de mécanicien qui maîtrise la voiture. Enfin, qui est un bon mécanicien, je vous l'ai dit. Qui se tape des kilomètres et qui disent qu'ils sont en mission. D'accord? Ils délivrent un homme de mission, ils se tapent des kilomètres, ils viennent pour juste réparer la voiture, pour faire une vidange, et ils repartent. Parce qu'il n'y a pas un bon mécanicien là-bas. Dans les communes, on n'a pas de société. Par exemple, on lance un appel d'offres, on veut faire la clôture d'une mairie à l'intérieur du pays. On cherche la société parce que, bon, sur le territoire de la commune, il n'y a personne, les gens ne sont pas formalisés. Il y a des ouvriers, mais des ouvriers qui ne sont pas dans le secteur formel, c'est-à-dire qui n'ont pas de société, qui ne sont pas en règle, qui ne savent pas ceci. Donc, il faut retourner à Lomé pour aller chercher une société qui va revenir à l'intérieur pour faire juste la clôture. C'est normal. Ça aussi, c'est le rôle des communes. Donc, les communes aussi ont une grande responsabilité par rapport à ce qui se passe. Maintenant, si on vient au niveau de ce que le sénateur dit, au niveau macro, les chiffres sont bons. On dit oui, le Togo, ceci, le Togo, classement, oui. Macro, je dis macro. D'accord? Quand on prend les indicateurs macro, oui. Voilà, climat des affaires. Quand on dit au niveau de l'électricité, oui, quand vous faites une demande en ligne, vous avez tel délai pour être accordé, oui.
La bancarisation, le climat des affaires, la sécurité.
Au niveau macro, c'est bon. Bon, maintenant, il y a un problème, comme il l'a dit, le problème d'investissement. Le problème d'investisseur, oui. Tous les jours, le gouvernement, nous-mêmes, on fait la promotion du consommer local. On dit oui, on veut véritablement que les gens consomment local. Mais quand on veut lancer, par exemple, une privatisation d'une société, d'État, on ne consomme pas local. On consomme étranger. On l'a vu partout. Alors qu'on doit préserver les richesses nationales, le bébé du pays. On laisse entre les mains des étrangers, mais
ça,
qui viennent
ça, qui est grave.
Et qui font ressortir les capitaux du pays. Mais si vous faites une analyse de ce qui se passe dans toutes les sociétés qui ont privatisé nos structures ici, c'est des capitaux qui font sortir du pays. Mais ça ne tourne pas chez nous.
D'accord.
Bon, maintenant après,
c'est parce qu'on veut ça, qui est merci. Une force économique au national. D'accord, merci. Nous venons alors de passer pratiquement une heure de temps dans ce débat très intéressant. Parce que oui, j'avoue quand même que c'est un débat très intéressant et ça apporte justement, ça nourrit la réflexion. Mais nous allons donner la parole aussi à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission, monsieur le sénateur. Et ils vont vous poser des questions, ça c'est évident. Et donc nous allons leur donner la parole, bien sûr, sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 115 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Voilà, je vais vous prier, bien sûr, monsieur le sénateur, de porter le casque. Vous l'avez déjà fait. Merci. Maintenant, vos compatriotes vont vous poser des questions. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, c'est Nestor depuis Agouet.
Justement, Nestor, allez-y.
Oui, tout de suite, le journaliste a parlé du troisième âge au niveau des sénateurs. Je voudrais poser la question à monsieur le sénateur. Qu'est-ce qu'il pense de l'affirmation de monsieur Achille Mbembe qui dit qu'il n'est pas normal que le continent, qui est majoritairement peuplé de jeunes et de femmes, soit gouverné par des vieillards et dont beaucoup peinent aujourd'hui à rester éveillés? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Oui, madame ici, bonjour.
Vous appelez mon jeune frère et mon frère sénateur, déjà.
Mais il est sénateur.
Aux États-Unis. Hein? Il sait bien, hein, que moi, comme quand on les appelle les honoraires, tout ça, là, moi, ça m'énerve. Il sait bien quoi. Bon, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Je fais un coucou à Guéry, hein, et je lui dis de lui transmettre que Théo Abi Alpha, voilà, tout le monde, quoi. Et puis voilà, donc, je vais dire à Innocent, je vais lui demander plutôt, les multiples coups d'État militaro-constitutionnels, gouvernés avec la violence, les armes, avec l'adage, le chien aboie, la caravane passe, et puis le train est parti, tout ça là, durant six décennies. Et qu'est-ce qu'ils pensent que ça peut être? Est-ce du gangstérisme d'État ou du réel politique? Je vais lui demander ça. Et puis, l'histoire des sénateurs, là, je crois que ça a été instigé dans la Constitution de 2002, quand on a charcuté la Constitution de 2002, là. Hein, je crois que c'est là-bas qu'ils... Et puis, ils font tout en catimini, hein, après minuit. En 2002 aussi, ils ont procédé comme ça. Et puis, ils l'ont inséré dedans, là. Attends, est-ce qu'il est fier, là, où il est, là? Ils n'ont qu'à arrêter, quoi.
Madame Assis, merci pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Il y a beaucoup de personnes, bien sûr, en ligne. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, c'est monsieur Ayawo.
Pardon, monsieur?
Monsieur Ayawo de Zanguera.
Ah, monsieur Ayawo de Zanguera, allez-y.
Moi, je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Monsieur Lyon a émis des préoccupations très pertinentes. Je ne sais pas si monsieur Kavara l'a écouté. Bon, maintenant, je voulais poser alors deux questions à monsieur Kavara. La première question, la main sur la conscience, est-ce qu'il croit que nous sommes dans une bonne gouvernance? Deuxième préoccupation, est-ce qu'il croit que ceux qui incarnent la mauvaise gouvernance, si c'est le cas, c'est eux qui sont toujours là? Est-ce qu'ils vont changer de paradigme? Donc, arrivé à la maison, si vous écoutez la chose, monsieur, pardon?
Non, allez-y, je vous écoute.
Je n'écoute pas bien?
Non, je vous écoute, allez-y.
D'accord. Donc, si vous va à la maison, est-ce qu'il écoute la chose? Tout ce que monsieur Lyon a évoqué là, il n'a répondu à aucune question. Et puis, la sincérité en soi n'est pas toujours synonyme de vérité. Il dit, monsieur, il est sincère à lui, mais. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est vérité. Je vous souhaite bonne journée.
Merci, M. Ayawo, pour votre intervention. Autre auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, votre nom, c'est Natéba.
C'est Natéba.
Voilà, allez-y.
Oui, je félicite le monsieur qui est avec vous. Il a dit que c'est juste de savoir. Mais je dis, c'est même que je dis qu'il a aimé là. Sincèrement, c'est le moteur même du pays. Mais là-bas, sincèrement, le problème de frontières, c'est tout pour la magie. C'est l'argent du peuple. Moi, il y a un problème au niveau de notre pays. Et à Tigan, Béga, quelqu'un qui signe à Tigan, qui rentre dans la famille de Béga, qui défend le terrain. Comment il va les juger alors qu'il c'est un frère. Il a fait cessation des travaux. Et on appelle, il a mis le. Il a utilisé l'institution de la République, il met son numéro, on appelle celui qui le fait.
Alors, Natéma.
Oui.
Décidément, je ne vous comprends pas. Vous nous avez suivi?
Ok.
Est-ce que vous nous avez suivi?
Donc, il a utilisé les institutions de la République.
Mais d'accord. Je pense que Natéma ne nous suit pas. Et... Allô? 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 Bonjour. Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom, c'est
Monsieur Hervé.
Hervé.
Agbé.
Agbé, vous nous appelez.
Oui, j'appelle d'Aveno.
Aveno, allez-y.
Bon, je vous salue sur le plateau.
Merci.
Vraiment, j'ai aimé le débat de ce jour. Merci. C'était vraiment passionnant. Parce que moi, j'aimerais dire, que ce soit 5e République ou bien 4e République, c'est pas le problème, ça. Le problème, c'est la volonté politique en action. Les gens n'ont qu'à se mettre en action pour nous montrer de quoi ils sont capables. Et de nous dire des discours mielleux pour nous manipuler après. Beaucoup de projets sont dans les tiroirs. on sort ce projet, et un an, deux ans après, on n'entend plus parler. Donc tout ça, là, ce n'est que du bling-bling. Donc on ne comprend rien. Donc ils n'ont qu'à mettre leur volonté politique en action pour qu'on puisse voir réellement les choses comme ça.
Monsieur Agbi est parti. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien.
Votre nom c'est?
C'est Bozambo.
Ah, Bozambo.
Ok, allez-y. Je dis bonjour à notre invité. La fois passée, j'ai dit quelque chose sur votre média par rapport à l'usine de Bassofé. Jusqu'à présent, aucun journaliste n'a pas été. Et les grandes autorités de ce pays, ils n'ont pas allé visiter que Bozambo a menti ou pas. Donc, hier, j'ai dit que le président n'a qu'à laisser le pouvoir ou bien le pouvoir va laisser. Mais pour des filles que j'ai reçues, donc ils sont là seulement pour écouter que tu attaques le
président. Allô, Bozambo. Allô, Bozambo. Bozambo, nous avons fait un débat aujourd'hui. Intéressez-vous à notre débat et posez des questions.
Ok, ma question est...
Oui.
Et le Togolais souffre. À ce moment que je parle, les Togolais qui sont au Gabon avec Ebouma, un parmi eux, il avait tombé sur les camions avec le courant qui avait frappé, il est tombé. Jusqu'à présent, on ne lui fait rien. On le laisse à l'hôpital. Donc, il souffre. Les gens qui appellent à Lomé, dont ce chef de canton de Baga, il a appelé Ebouma. On a licencié celui qui avait appelé le chef. Et rappeler la hiérarchie. Donc, si le Togo va fonctionner comme ça, il peut nous amener au loin pour nous torturer encore. Ça ne nous aura pas.
D'accord, merci beaucoup, Bozambo. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Pascal, bonjour.
C'est Basile?
Non, c'est M. Balou.
Ah, M. Balou.
Oui.
Ah,
je salue André, j'ai des passages.
Oui, d'accord.
Et moi, pour une première fois, il a qualifié le chef de l'État. Comme il y a intérêt, on a nommé son frère comme président de la République. Donc c'est juste pour lui.
Hein. Oui,
ben, moi, mon intervention, c'est comment peut-on là. Le sénateur vient de dire, il a souligné un peu là, ça y est, maintenant on doit laisser affaire du 5e République là. C'est déjà passé. Maintenant, nous devons voir le développement du pays. Donc, moi, je reste le chef de l'État, ça veut dire ce qu'il va nommer prochainement là, pour mon craft. Ça lui s'est donné au travail. Ça lui dit, le chantier est vaste. Donc, affaire de cette République, le débat là, ça lui dit, qui peut faire, si ce n'est pas le chef de l'État, c'est le gouvernement qui peut faire. C'est eux qui peuvent faire, parce qu'ils connaissent les mots du problème. Donc, encourageons-les. C'est le débat, et qui viendra faire. C'est eux qui doivent faire ça. Donc, moi, je les encourage à aller plus.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Abalo. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Pascal.
C'est Abdel.
C'est Abdel, bien sûr.
Ah, mais ça fait longtemps. Allez-y.
Sinon, ça va.
Oui, ça va.
Je voudrais saluer votre invité.
Oui, bonjour, monsieur Abdel.
Kadara.
Oui, oui.
Bon, venir un peu à son secours. Vous savez. Le régime parlementaire, en réalité, c'est un bon régime. Mais ça dépendra de la volonté de ceux qui l'animent. Moi, il y a personnellement deux caractéristiques fondamentales et certains avantages du régime parlementaire qui font d'elle une république dont je vais aller citer ce mien. Vous voyez, le régime parlementaire a cette caractéristique de pouvoir désigner le président du conseil de la majorité parlementaire. Elle a aussi la caractéristique de pouvoir, comment le dire, renverser le gouvernement par une motion de censure. C'est très très important. C'est une rupture avec l'ancien système au niveau du régime présidentiel qui... De façon abusive, donner tous les pouvoirs au président de la République de nommer le premier ministre, de tenir l'Assemblée, en tout cas de tenir tous les appareils de l'État. Donc c'est une rupture totale. Maintenant, au niveau des avantages, elle permet de soumettre l'exécutif à un contrôle direct et permanent. Vous voyez, c'est une grande avancée. Il suffit qu'on la mine bien pour que ça soit une réussite, c'est tout.
D'accord. Merci beaucoup, Abdel. Je ne sais pas si nous avons encore quelques minutes pour recevoir. Bien sûr, il y a Michi qui me fait signe que nous pouvons recevoir un dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Monsieur Mauto.
Ah, Monsieur Mauto, allez-y.
Oui. Salut, votre invité.
Oui.
Bonjour. Monsieur Kamba, s'il vous plaît, quelle baguette magique vous avez mis dans la Seconde République qui va arrêter la corruption au Togo? Le problème du Togo, c'est la corruption, quoi. C'est les mêmes personnes qui ont animé la 4e République, qui vont animer encore la 5e République. Et je vous rappelle que le président Faure a toujours gouverné le Togo pendant ses 20 ans avec une majorité absolue. Il n'a pas pu arrêter la corruption au Togo. Même la justice sociale, il n'a pas pu arrêter. Comment vous allez faire pour arrêter cette loi au Togo? Merci, bonne émission.
D'accord, merci Monsieur Mauto pour votre question et votre intervention. Merci à vous tous pour vos diverses interventions. Nous revenons en plateau et nous allons donner la parole à Monsieur Kagbara qui va répondre justement à ces questions. Monsieur Kagbara, c'est vrai, on va commencer avec la question de Monsieur Mauto. C'est vrai, en parlant des défis tout de suite, vous avez énuméré aussi la corruption. Monsieur Mauto qui demande comment pensez-vous quand même que cette question de corruption pourra être évitée dans la 5e République?
Non, il n'y a pas de baguette magique. Tout ça, c'est une question de volonté. Et puis des hommes et des femmes qui animent qui vont animer le gouvernement et puis qui seront nommés aux différentes fonctions. Donc, comme je l'ai dit, c'est d'abord une question de patriotisme. Nous devons même, sénateurs, députés, ministres, c'est nous qui devons servir le peuple. En réalité, c'est une question d'humilité, de sacerdoce. Donc, c'est une question de patriotisme. Pour moi, c'est d'abord amener les gens à un changement de mentalité. C'est amener d'abord des gens à un changement de mentalité. Bon, maintenant, il y a des dispositifs, il y a le Alpicia, et puis il y a peut-être des lois qui seront votées pour renforcer ces dispositifs qui sont existants. Mais au-delà des dispositifs, il faut punir les gens. Il faut punir des gens. C'est aussi simple. Il n'y a pas de baguette magique. Moi, je ne pourrais pas répondre en lui disant qui est elle, puisqu'il y a quelqu'un qui a posé une question qui dit quelle est la baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. D'abord, c'est la volonté des gens, c'est le patriotisme. Et puis, il faut qu'on commence par sévir. Il faut qu'on commence par punir les gens qui mettent la main sur les deniers publics. C'est simple.
D'accord. Il y a M. Atou, Dalido Gomé, qui nous a écrit. Il dit bonjour, M. Pascal. S'il vous plaît, posez-moi la question au sénateur de savoir pourquoi le régime en place n'a pas pu développer le pays pendant 58 ans passés et c'est dans leur 5e république et qu'ils comptent le faire. Qu'est-ce qui les empêchait avant? C'est M. Atou et cette question va dans la droite ligne alors de question également de Madame Messi.
Non, mais Madame Messi, elle aime bien, à chaque fois que je suis sur un plateau, elle aime bien m'appeler un peu pour me saluer. Bon, je pense que c'est une simple salutation, c'est pas vraiment une question, puisque j'ai déjà parlé de ces aspects-là. Bon, moi, je suis de l'opposition modérée. Ce qui me distingue par rapport aux autres, c'est la méthode. C'est le mode opératoire, c'est ça qui nous distingue. Sinon, je ne suis pas au gouvernement, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais c'est pour vous dire un peu ce que moi je ferai. C'est pour ça que je vends toujours mon programme de société. Je suis un panafricaniste, c'est dénoncer les accords qui nous lient, c'est faire en sorte qu'on ait une architecture politique qui permet aux états-majors de partis politiques de faire la politique au niveau du Parlement, pour que le débat soit fait dorénavant au niveau du Parlement, qu'en une élection, qu'on règle le problème de toutes les élections, quand on fait le cumul, on peut prendre ça pour construire des puits. La réalité, c'est ce qui nous anime. Et les concepts de développement, par exemple, il y a le groupe Mansa qui est en train d'animer une conférence. Moi, je serai à la conférence. J'ai beaucoup de panafricanistes, des amis qui m'ont appelé du Tchad, du Gabon, un peu partout, parce qu'ils seront à cette conférence. Nous voulons définir le concept de développement par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et ce nous-mêmes n'est contre personne. Nous voulons incarner un nouveau leadership dans la rupture. Même si vous finissez votre carrière à 80 ans, vous n'avez qu'une seule maison, vous êtes riche. Ce n'est pas le fait d'accumuler les richesses terrestres parce que personne ne partira avec. Je l'ai déjà dit. Donc, nous incarnons cette rupture. Moi, je ne peux pas répondre à la place puisque je suis de l'opposition. Je suis venu vous parler de la 5e République. Je suis venu vous parler des défis. Mais je ne suis pas un membre du gouvernement, donc je ne peux pas répondre à la place du gouvernement.
Mais M. Kagbara, est-ce que nous sommes dans une bonne gouvernance? C'est M. Ayaou qui a posé la question.
Bon, pour répondre à cette question, c'est pour dire que vous allez voter pour nous si vous trouvez que nous ne sommes pas dans une bonne gouvernance. Il y a des élections dans 2 mois, donc votez pour le Grand Centre, une coalition du Grand Centre qui va présenter des candidatures sur l'ensemble du territoire. Donc si vous n'êtes pas satisfait de la gouvernance. Mais tout ce que moi je peux dire, ce que je peux dire, c'est vous dire que depuis quelques années, il y a quand même une amélioration
dans la gestion des affaires du pays. Et les indicateurs le montrent, on ne peut pas le nier. Et je l'ai toujours dit, moi, si je prends le pouvoir sur le plan sécuritaire, on a un bon dispositif. Il faut discuter avec les gens pour qu'on aille toujours dans le sens de l'amélioration continue. Sur le plan des affaires étrangères, le travail est excellent. Il ne faut pas dire le contraire, le travail est excellent. Le pays, le Togo est cité en exemple. Maintenant, sur des questions sociales, sur des questions de justice, sur des questions de communes, tout ça là, le défi est énorme. Par exemple, les communes ont été mises en place, mais les 5 ans, les premiers 6 ans, c'est l'apprentissage. On l'a dit, c'est un constat. Nous tous, nous le savons. Il y a un problème également de ressources. Mais si aussi nous demandons des efforts au niveau des gouvernants, nous aussi au niveau des gouvernés, nous devons faire des efforts. C'est pour ça que nous parlons également de patriotisme. Mais les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut de la justice sociale. Il faut de la chance pour que tout le monde, que vous voyez de Kpalata, que vous voyez de je sais pas quel village, vous venez, vous ne connaissez personne. Votre patronyme ne vous sert pas. Mais en 3, 4, 5 ans, vous devez pouvoir réaliser votre rêve, le rêve togolais.
D'accord. Mais est-ce que déjà dans la 5e République, c'est la deuxième question de Ayao, dans la 5e République, est-ce qu'il y aura un changement de paradigme?
Forcément, il y aura un changement de paradigme. Le style n'est pas le même parce que maintenant, les ministres dépendent directement du président du Conseil qui est le chancelier togolais. Donc, il y aura la reddition des comptes. Le Parlement peut interpeller. Je pense qu'il y a un des intervenants qui est revenu sur les avantages de la 5e République.
C'est Abdel.
Oui, il est revenu sur les avantages. Ce débat, nous l'avons déjà fait. Nous l'avons fait pendant un an. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas jugé utile de revenir sur les avantages du système parlementaire parce qu'il y a une équilibre de terreur entre le Parlement, même sa propre majorité, et lui-même, puisqu'il peut faire tomber l'Assemblée nationale, mais par exemple, on ne peut pas dissoudre le Sénat. De toute façon, l'Assemblée aussi nationale peut faire tomber le président du Conseil. Donc, s'il n'a pas le soutien de sa majorité, on est obligé d'aller aux élections anticipées.
D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Oui, monsieur Kagbara, votre mot de la fin. Oui.
Mon mot de la fin, c'est que nous avons un beau pays et que nous devons construire ensemble. Nous sommes dans la 5e République, aidons à installer des institutions qui sont fortes. Pas des hommes qui sont forts, des institutions fortes pour le mieux-être de notre population. Et ça passe par l'effort de tout le monde.
D'accord.
Chacun, en ce qui le concerne, va jouer son rôle. Mais je peux vous assurer que nous sommes sur la bonne voie et nous allons continuer dans ce sens pour construire un pays qui nous ressemble et un pays qui nous rassemble. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, M. Kagbara. Ambrose, nous sommes à la fin.
Non, moi, je salue les auditeurs qui ont appelé, ceux qui... Moi, on voit aussi des salutations et quelques petits pics là.
Ça ne manque jamais.
Oui, tous ceux qui sont les natifs de Mishintobe et qui m'écoutent actuellement là, tous n'ont qu'à converger vers Mishintobe le dimanche à partir de 8h.
Ce serait la grande fête.
Oui, et tu t'en blancs. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui m'écoutent, qui sont natifs, même si tu es à Palimé, si tu es à Sokodé, si tu es au Ghana, au Bénin là, ils n'ont qu'à descendre.
Je suis heureux.
C'est pas tous les cantons qui prennent le titre.
Je suis heureux de quand même de t'écouter comme ça.
Il est devenu centriste. Il y a un débat parce que depuis un moment les gens disent que non, c'est pas bien de ramener le débat aux origines quand on parle de président et tout ça, mais en réalité l'Africain se retrouve à travers le vote qui est proche de son frère, de
tout
sa sœur. Vous comprenez, même au Burkina, c'est les Mossi, vous allez en Côte d'Ivoire, le vote est d'abord, bon, c'est une question de... comme il l'a dit. Donc en réalité, bon, félicitations Ambroise et à toute la communauté. Bon, on va compter sur eux pour qu'ils soient véritablement le chef
d'orchestre de l'unité
nationale.
Ce qui est suivi nous invite déjà. Il a signé.
Il est invité. Le sénateur de la retire aussi.
Non, mais Ambroise, depuis là, il devient membre des privilégiés puisque c'est son premier.
Merci beaucoup, Younoussa Kagbara, sénateur et aussi président du parti PDP. Merci d'être passé alors dans cette émission. Et l'homme Tissogbe, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune, Ambroise Kondo, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal des Guadians, merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous, merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutsa a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou, je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.